Radio Okapi.
Radio Okapi vous amène en ouverture de cette édition vespérale dans la province du Nord Kivu sur le théâtre des combats. Les terroristes du M23 tirent à l'aveuglette, renseigne le porte-parole des FRDC sur place. C'est après avoir été bloqué net vers la cité de Sake. À suivre également dans ce journal, c'est cette décision de l'IGF d'arrêter sa patrouille financière dans les entreprises publiques. L'inspection affirme tout de même avoir émis quelques recommandations. Nous terminerons ce journal sur l'eau avec notre invité Daniel Loaboshi, directeur général de la régie des voies fluviales. Un bateau baliseur redevient opérationnel après 6 ans d'arrêt. En restant avec nous, vous découvrez tout de suite les autres facettes des faits qui font l'actualité que Radio Okapi vous rapporte. Amis à l'écoute, bienvenue, bonsoir, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. À la présentation de ce journal, Billy Van Lutumba, dans le Nord Kivu, l'armée congolaise dit avoir stoppé une avancée des rebelles sur la cité de Sake. Toute la journée, ce jeudi, d'intenses combats ont opposé les FRDC soutenus par la force de la SADC aux rebelles M23-RDF autour de cette cité du territoire de Masisi. Le porte-parole de l'armée indique que l'opération vise à mettre la population à l'abri de ces menaces rebelles. Le lieutenant-colonel Guillaume Dike réitère son appel à une collaboration avec la population. Il est ici dans ses propos recueillis par Bernard Enyangui.
Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les forces armées de la République démocratique du Congo répliquent efficacement aux provocations de l'armée rwandaise qui tire à l'aveuglette dans la cité de Sake et ses environs. Il est question pour les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires de mettre notre population à l'abri des tirs de ces terroristes. À ce stade, le mouvement ennemi a été stoppé net. Le reste des actions menées à ce jour vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Il est cependant demandé à notre population d'accompagner son armée et ses partenaires et de ne pas se fier aux rumeurs que propage l'ennemi dans les réseaux sociaux.
Après que ces rebelles soient stoppés net par l'armée congolaise, selon certaines sources, des tirs rebelles en représailles ont atteint des cibles militaires et civiles dans la matinée ce jeudi à Sake. Un convoi de la SAMIR RDC a été fortement touché alors que quelques civils auraient aussi été blessés, indiquent ces sources. Dans le Nord Kivu encore, une forte psychose est observée ce jeudi dans la cité et village de Kanyabayonga. La situation est consécutive à une avancée des rebelles du M23 dans la chefferie de Bwito. Ces rebelles, après l'occupation du village Lusowa hier mercredi, ont progressé ce jeudi en direction de Bulindi et Butalunga sur l'axe Kanyabayonga. Selon nos sources sur place, alors que ces rebelles sont encore à une dizaine de kilomètres de la cité, des tirs nourris ont été entendus au milieu de la journée ce jeudi à Kilambo. C'est un village de la localité de Butalongola, à environ 3 km du centre de Kanyabayonga. C'est cet incident qui aurait exacerbé la panique dans la cité, poussant des centaines de familles et commerçants à évacuer leurs familles et leurs biens de toute la partie sud de la cité de Kanyabayonga. Nous allons poursuivre l'actualité toujours dans la partie est du pays, encore une fois de plus dans le Nord Kivu, où le calme se rétablit progressivement après une psychose dans la matinée ce jeudi dans un site des déplacés au quartier Mugunga. À l'origine, les déplacés du site de Lushagala en colère ont lynché avant de brûler vif une personne. L'homme serait surpris en train de filmer le dispositif de l'armement des FRDC installé dans ce quartier. Ceci s'ajoute aux détonations des bombes larguées par l'armée en direction de l'ennemi depuis tôt le matin vers la cité de Sake. Ce qui a exacerbé la tension et la peur parmi les déplacés qui ont en mémoire des tristes souvenirs. Le chef de quartier de Mugunga appelle la population de son entité, les déplacés notamment, au calme. Safari Mbalimbukira décrit la situation qui a régné ce matin. Il est joint par Denise Lukeso.
Pour le moment, la situation est relativement calme, à part quelqu'un qui vient d'être cantiné par la population déplacé, en disant qu'il était en train de filmer nos armes. On est en train de faire l'investigation, donc il est inconnu jusqu'à présent parce que je suis avec les autorités locales, les chefs d'avenir, les chefs de site de Lushagala. Jusqu'à présent, nous ne savons pas son identité. Les bombardements commençaient à 4 heures, on est en train de suivre jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, il n'y a pas la réplique. avec le bombardement, on a sensibilisé tous les déplacés pour qu'ils soient calmes, parce que c'est la haute hiérarchie qui est en train de réagir. Donc tous les déplacés sont déjà sensibilisés. Nous les demandons d'être calmes parce qu'on est en train de faire le suivi.
De l'humanitaire, afflux des déplacés depuis quelques jours dans plusieurs localités et villages du territoire de Lubero. C'est à la suite des combats entre FRDC et rebelles du M23 dans le territoire voisin de Rutshuru. Des déplacés qui se concentrent dans la commune rurale de Kanyabayonga où la situation humanitaire reste préoccupante. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Ce nouvel afflux de déplacés dans le territoire de Lubero est observé depuis 4 jours après l'occupation par les rebelles du M23 des 4 villages du territoire de Rutshuru situés à une 20aine de kilomètres de Kanyabayonga. C'est dans cette commune rurale du territoire de Lubero que sont concentrés ces déplacés dont le nombre est estimé à environ 6500 ménages. Certains sont hébergés dans des familles d'accueil, d'autres dans des églises et écoles où ils partagent des salles de classe avec les élèves. Dans leur fuite pour se protéger, ces déplacés en majorité des femmes, enfants et personnes de troisième âge n'ont rien emporté avec eux. Ils manquent de tout et leur situation est préoccupante, rapportent des sources locales à Kanyabayonga. Signalons que cette commune rurale héberge depuis plus d'une année plus de 30 000 autres ménages de déplacés. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais bénéficié d'assistance humanitaire et vivent dans des conditions difficiles. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Nous en sommes à notre deuxième titre de ce journal à Kinshasa, il est 18h06. L'IGF décide de mettre fin à ses missions d'encadrement dans les entreprises publiques mieux connues sous l'appellation de la patrie financière. Ces décisions sont contenues dans un communiqué dont copie est parvenue ce mercredi à Radio Okapi. D'après l'IGF, des recommandations ont été formulées à l'endroit des gestionnaires de toutes les entreprises où les dites missions se sont effectuées. Plus de détails avec Cynthia Bachizi.
La patrouille financière de l'IGF est constituée de différents inspecteurs affectés dans une 40aine d'entreprises privées, mais aussi en province. Toute opération de sortie de fonds dans ces entreprises était soumise à la validation de ces inspecteurs. Ces derniers devaient aussi s'assurer de la transparence dans la chaîne des dépenses, mais aussi du respect des procédures en matière de passation des marchés. Cette mission a sauvé la trésorerie publique des dépenses de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains, selon l'IGF. Un succès nuancé par Valérie Mandianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL.
Toutes ces missions n'ont produit aucun résultat parce que toutes les pratiques décriées ont continué, notamment les recettes mobilisées par les entreprises publiques ont continué à être détournées en présence de l'inspection générale des finances. Mais nous pensons que pour l'instant, les concours de la Cour des comptes ferait l'affaire. Ça pourrait crédibiliser davantage les audits. Vous savez que certains inspecteurs de l'IGF ont été également cités dans plusieurs mauvaises pratiques.
Dans l'entretemps, l'IGF va procéder auprès des banques commerciales au monitoring de toutes les opérations financières de ces entreprises publiques.
Cette autre nouvelle qui s'apparente à la patrouille financière, coulage des recettes du Fonds national d'entretien routier en Ituri, environ 12 millions de dollars américains sont détournés presque chaque mois dans plusieurs postes frontaliers en province. Constaté mardi par une délégation mixte Fonair des GDA et une structure de lutte contre la corruption, APLC, venue de Kinshasa, qui a saisi le cabinet du gouverneur province. Au cours d'un point de presse tenu à Bounia, le chef de ces délégations révèle que son service a constaté un manque à gagner d'environ 81 millions de dollars depuis 2018 des recettes réalisées en Ituri. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Une baisse sensible des fonds perçus par les Fonds National d'entretien routier Fonair est observée au niveau national pour les comptes de la province de l'Ituri depuis 2018. C'est ce qu'a indiqué mardi le directeur de ces services ainsi que des agents de la DGDA qui font des investigations sur la traçabilité de ces fonds. Selon le directeur des cabinets de la direction générale du Fonair, le coulage d'au moins 12 millions de dollars chaque mois s'observe depuis le début de cette année aux différents postes de contrôle dont Kengezi Baz et Mahagi, Martin Malengue.
Il y a des grandes quantités de produits pétroliers qui entrent dans cette province. Le Fonair devait avoir beaucoup d'argent, mais ce qui entre, c'est insignifiant. De 2018 à ce jour, le Fonair n'a pas vu dans ses caisses 81 millions de dollars.
Le gouverneur fustige qu'un groupe d'individus s'arroge le droit de piller les ressources de l'État dans cette province confrontée à d'énormes défis qui nécessitent des moyens conséquents pour son développement. Le général Johnny Luboyankashama.
Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y a des individus qui prennent autant d'argent. Avec tous ces millions, vous allez en faire quoi ? Vous faites souffrir toute une population.
La coordination de la société civile qui avait alerté la hiérarchie des Foner sur cette présomption des détournements demande au gouverneur de saisir la justice militaire en vue d'identifier et de poursuivre les auteurs. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Radio Okapi poursuit avec vous ce tour à travers le pays pour découvrir l'actualité. Nous sommes à présent dans la province du Haut-Ouélé où les boutiques et magasins sont fermés depuis lundi dernier par la mairie d'Issiro pour insolvabilité de loyer. Selon certaines sources locales, les propriétaires des maisons de commerce qui se sont acquittés de leurs obligations ont été autorisés à les rouvrir. Cependant, ils en ont été empêchés par la FEC afin de contraindre le maire de la ville à négocier avec eux la tarification des différentes taxes qui leur sont imposés. Pour le premier président de la FEC au Touélé, Jean-Martin Magot, ils n'ont pas de même interprétation avec la mairie sur deux taxes payées à payer. Ces propos ont été recueillis par Jacques Mkongolé.
La première taxe, c'est la taxe de location sur les shops au marché public urbain. Le maire de la ville a éclaté ça à plusieurs catégories. Il y a des gens qui paient 125 000, d'autres 300 000, d'autres 380 000, ainsi de suite. Et le problème d'interprétation, c'est que c'est une shop, un petit local où on exerce location et shop dans les marchés urbains. C'est les échoppes construites par la ville qui sont données à location aux commerçants et ceux-ci payent la location à cet effet. Mais si vous voyez dans la nomenclature de la mairie, c'est plusieurs catégories d'échoppes. Même les entrepôts sont des échoppes, les stations sont des échoppes, les grands dépôts des boissons sont des échoppes. Tu vois qu'il y a un problème de terre. C'est pourquoi on a demandé à ce que l'on s'asseye et que l'on ait la même compréhension. Concernant la taxe sur les stationnements dans les parkings publics, mais il faut qu'on discute, il faut qu'on échange, n'est-ce pas? Nous sommes des partenaires. Si l'on nous considère comme des sous-citoyens et que nous devons tout gober sans nous poser des questions, je crois que c'est une erreur.
Dans la Mongala, l'espace inter-mongalais se félicite de compter trois ressortissants au sein du nouveau gouvernement souminois. Cependant, leur présence doit plutôt être une occasion de relever plusieurs défis de développement auxquels la province reste confrontée. C'est notamment le délabrement des infrastructures socio-économiques et administratives ainsi que les érosions et les unités des productions. Le point avec Paul-Richard Malingela.
La reconduction de Jean-Pierre Liaou, Guy Aimé Molendo et d'Élisée Bokumwana au sein du gouvernement souminois suscite encore une vive joie dans la province de la Mongala dont ils sont originaires. Ce jeudi, la structure de réflexion Espace Intermongalais leur adresse un message de félicitations et de solidarité. Mais dans ce message, l'EIM estime que ses représentants sont plutôt un atout majeur. C'est en vue de mieux plaider et de booster le développement de la Mongala. Car depuis des décennies, la province reste confrontée à plusieurs défis. C'est ce que dit le coordonnateur national de l'EIM, Eric Basselé.
Faudrait-il vous rappeler au cours de ce énième mandat que le tronçon routier de la RN6 à Koula, Lissala, Lissala-Bumba et Bumba-Bundu qui demeure dans un état de délabrement très avancé. Il en est de même pour les tronçons routiers économiquement stratégiques, Lissala-Businga et Businga-Badolite, abandonnés depuis une décennie, devraient être réhabilités.
À cela, Eric Basselé-Liel ajoute également le défi de multiples têtes d'érosion, lesquelles menacent de disparition la ville de Lissala, la côte de la ville de Bumba sur le fleuve Congo et le bâtiment administratif de Bongandanga. Enfin, l'EIM attend voir l'érection des aéroports à Lissala et à Bumba, ainsi que le renforcement de l'électricité, de l'eau potable et de la voirie à travers les centres urbains. Bondaka, Porsche Malengela, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, revenons sur cette nouvelle qui défraie la chronique à Lubumbashi. Les autorités de l'université de Unilou confirment que certaines personnes qui sont tombées malades après avoir pris part au buffet offert par la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi à la clôture des journées scientifiques organisées du 20 au 23 mai ont été atteintes par le choléra. Les sources médicales renseignent que sur la vingtaine des malades, un seul a perdu la vie. Jean Gando pour les détails.
Plusieurs sources indiquent qu'après le buffet, certains participants ont manifesté des symptômes tels la diarrhée et le vomissement. La plupart ont été pris en charge aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Cette situation a suscité des commentaires divers, notamment auprès des proches des malades et même dans la communauté. Pour la plupart, il s'agissait de cas d'intoxication alimentaire. Cette assertion a été balayée par le ministre provincial de la Santé, pour qui il s'agit plutôt du choléra. Au cours d'une conférence de presse animée sur mercredi, le recteur de l'université de Lubumbashi, le doyen de la faculté de médecine et le médecin directeur des cliniques universitaires sont revenus sur cette affaire qui défrait la chronique. Pour eux, les échantillons prélevés sur les malades et analysés au grand laboratoire de Lubumbashi confirment bel et bien la thèse du choléra. Notons que, d'après les mêmes sources, sur 23 malades, 22 se sont tirés d'affaire et un seul en est mort. Entre-temps, d'autres personnes estiment que les enquêtes devraient être approfondies pour en savoir un peu plus, notamment sur les services traiteurs qui a préparé ce buffet et en rétablir les cas échéant les responsabilités. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Après une journée de vote pour les législatives en Afrique du Sud, l'heure est au dépouillement dans certaines régions du pays. Le premier décompte donne à l'ANC un peu plus de 42% des voix, avec seulement plus de 16% des votes dépouillés et déclarés. En attendant les résultats définitifs, certains Sud-Africains manifestent leurs attentes. Si l'ANC se voit refuser la majorité, ce scrutin marquera un tournant historique en Afrique du Sud depuis l'avènement de la démocratie et la fin de l'apartheid. Et puis, le Nigeria a adopté un nouvel hymne national mercredi après que les députés ont voté une loi remplaçant l'hymne actuel par une version abandonnée il y a près d'un demi-siècle, suscitant de nombreuses critiques sur la manière dont la loi a été adoptée à la hâte, sans grande participation du public. L'hymne Arise aux compatriotes, qui est remplacé, était utilisé depuis 1978, date à laquelle il a été introduit par le gouvernement militaire.
L'invité.
Notre invité est Daniel Loaboshi, directeur général de la Régie des voies fluviales. Il nous parle de ce bateau baliseur mis à flot après 6 ans d'arrêt des travaux. À quoi servira cet outil? Daniel Loaboshi répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Daniel Loaboshi, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Après près de 6 ans de travaux de construction de ces bateaux baliseurs, aujourd'hui vous organisez une randonnée sur le fleuve Congo. Cette activité a quel sens?
Merci madame. En fait, pour aujourd'hui, au niveau de la ville de Kindu, il s'agissait d'une activité d'un essai technique avant la réception technique de l'unité du baliseur d'affluent qui était en construction au port de la SNCC au niveau de Kindu au profit de la régie des voies fluviales. Je ne peux pas dire qu'il y a 6 ans de travaux. Non, il y avait 6 ans d'interruption. Les travaux avaient commencé en avril 2018 et se sont arrêtés en décembre 2018. Lors de notre arrivée à la tête de la régie en août 2023, moi-même, accompagné de tout le comité de gestion, nous sommes battus avec aussi le concours de plusieurs personnalités, beaucoup plus l'implication du chef de l'État. Le gouvernement a pu libérer les moyens pour la finition de ces travaux. Voilà pourquoi nous avons organisé cette petite randonnée avec les autorités provinciales pour qu'ensemble on constate l'état d'avancement et enfin procéder à l'inauguration par le gouvernement national qui pourra décider à quand ça pourra se faire. Voilà.
Bientôt, ce bateau sera mis en service. Alors, une fois en mouvement, où est-ce que ça va chaque fois accoster, étant donné qu'une grande partie de la concession de la RVF est spoliée?
Oui, cela nous pose un sérieux problème exactement. Je ne saurais pas vous dire où est-ce que ça pourra accoster. C'est d'ailleurs une alarme que je suis en train de faire aux autorités tant politiques qu'administratives et judiciaires de la province, parce que c'est une unité d'une grande valeur, à peu près 3 500 000 dollars que l'État congolais a disponibilisé pour que cette unité soit mise à flot aujourd'hui. Mais où est-ce que ça va accoster? C'est un patrimoine, oui, de l'État congolais, mais aussi un patrimoine de la province du Maniema. Parce que ça servira, comme je l'ai dit, à l'entretien et à l'aménagement de la ligne Kindu-Ubundu. Et dans cette unité, il y a des biens de grande valeur. En fait, c'est un petit hôtel flottant qui nécessite un accostage sécurisé. Mais nous constatons, comme vous l'avez dit, que le terrain a été spolié. Mais nous nous battons. Nous avons eu les assurances des autorités de la province qui nous ont assuré qu'elles vont nous retourner nos terrains pour que nous puissions y mettre une darse, comme nous appelons chez nous, une quai où ces bateaux, cette unité pourra accoster. D'autant plus que ça ne fait pas les mouvements chaque jour. Nous, les balisages chez nous, c'est périodique. C'est beaucoup plus pendant la période de basses eaux où il y a souvent un danger dans la navigation. Donc ça pourra faire facilement 6 mois sans bouger. Et nous n'allons pas continuer éternellement à être des locataires de nos amis de la SNCC qui nous logent.
Souvent, la RVF travaille avec les ateliers mécaniques et de menuiserie. Est-ce que vous en avez?
Bon, au niveau de Kindu, nous n'en avons pas jusque-là. Mais l'objectif, c'est de faire revivre ces ateliers. Notre travail, c'est un travail à caractère technique et scientifique. Et on ne peut pas faire la technique sans atelier. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons constaté que les terrains qui servaient d'atelier ni mécanique et menuiserie, ce terrain aussi a été spolié. Voilà encore une fois pourquoi nous interpellons les autorités pour qu'on nous redonne les terrains. Parce qu'en créant les ateliers, nous allons créer de l'emploi. Bref, si l'État n'intervient pas en nous redonnant nos terrains ou alors en nous attribuant un autre terrain capable de pouvoir recevoir nos services, oui, ils seront pleins de bonne volonté, mais malheureusement, ce qu'on va constater que lors de la campagne, nous sommes obligés peut-être de faire fabriquer des blocs à Kinshasa, les ramener par avion, vous voyez ce que ça coûte, ce qui va priver l'enfant du Maniema de ses travaux, ce qui va priver l'enfant du Maniema de l'achat, parce qu'on aurait dit acheter localement, ça participerait d'une manière ou d'une autre à la richesse provinciale.
Monsieur Daniel, est-ce qu'on peut dire qu'avec la présence de ces bateaux balisaires dans la province d'Imanemo, cela viendra un peu, si pas diminuer, résoudre un peu les problèmes des accidents sur le fleuve Congo?
Certainement, certainement, ça va sensiblement diminuer les accidents. Pour éviter les accidents, oui, une partie c'est dans les balisages, mais une autre partie aussi c'est dans la formation des capitaines pour qu'ils connaissent comment interpréter les signaux. Une autre partie c'est dans l'application de la loi sur la navigation. Et donc, tout cela, nous devons lutter pour que ça soit réalisé. Et là, nous allons voir que les accidents seront minimisés et très minimes dans notre pays.
Monsieur Daniel Luaboshi, merci.
C'est moi qui remercie la Radio Okapi pour le travail qu'elle fait pour le peuple congolais.
Merci à vous aussi qui nous avez suivis depuis Idjui, où il est 19h21, ainsi qu'en Kwadi, Deps Vita. Pierre Diassilante assurait la prise des sons et la mise en onde au nom de toute l'équipe qui a fabriqué cette édition de journal. Billy Van Lutumba vous dit sincèrement merci pour l'attention nous accordée.